Frères et sœurs bien-aimés, c'est toujours une grâce lorsque une mission se réalise dans une paroisse, la grâce de pouvoir faire mémoire déjà de ce que nous savons. Parce que les bienfaits d'une mission paroissiale s'adressent bien sûr à l'ensemble des paroissiens, mais de façon particulière à ceux qui sont déjà dans l'Église, déjà qui ont accueilli la bonne nouvelle du salut et qui sont d'une manière ou d'une autre les acteurs actifs de la vie paroissiale, de les aider à reprendre force et courage et à découvrir, au cœur même de leur engagement ecclésial, à découvrir que cette bonne nouvelle, elle est actuelle, elle est capable de transformer leur vie. Aujourd'hui, nous avons cette parabole bien connue du fils prodigue, de celui qui a dépensé tout l'argent de son père et qui revient vers le père. Certainement pour la paroisse et comme pour chacun d'entre nous, eh bien cette parabole est l'invitation à une conversion dans le sens de se réconcilier, comme le dit l'apôtre saint Paul dans la deuxième lecture, laissez-vous réconcilier par le Christ. Nous sommes les ministres de la réconciliation. C'est souvent que une mission paroissiale se déroule dans un temps de carême, parce que c'est aussi l'annonce qui est faite à chacun, à ceux qui sont les pratiquants habituels, mais aussi à tous ceux qui veulent accueillir l'Évangile. C'est l'annonce qui est faite d'une réconciliation. La réconciliation, quand on analyse un peu le mot au plan étymologique, on voit que ça vient du mot lumière. C'est remettre dans la lumière ce qui était la partie d'ombre dans notre vie. Et l'Évangile nous redit ça. Remettre dans la lumière de l'amour de Dieu ce qui, au fond, nous a éloignés du Seigneur. Lorsqu'on lit de façon plus attentive cette parabole, on voit plusieurs étapes. Tout d'abord, ce fils prodigue qui croit qu'il va être plus heureux loin de Dieu parce que, évidemment, le père de la parabole, c'est l'image du Père céleste. Il va être plus heureux loin de son père et il a cette indélicatesse de demander la part d'héritage qui lui revient, c'est-à-dire, au fond, considérer son père comme mort, puisque l'héritage, nous le recevons à la mort de nos parents ou d'un des parents. Eh bien, on voit bien que, déjà, cette indélicatesse montre qu'il croit être plus heureux loin de son père. Et cette parabole nous parle de façon particulière à nous qui sommes dans cette société dans laquelle nous sommes, cette société moderne, qui a une forme de rejet des origines. On n'accepte pas nos origines, on n'accepte pas d'être d'abord être enfant de Dieu, d'avoir en Dieu nos origines, mais c'est typique de l'homme moderne de vouloir être à lui-même sa propre loi, à autonomos, c'est-à-dire autonome, comme s'il ne dépendait de personne, comme s'il fixait lui-même les règles. Il ne les accueillait pas de la part du Seigneur et ne les accueillait pas dans la foi. Et donc cet homme, ce jeune homme, on suppose un jeune homme, qui part, le bonheur est loin de Dieu, loin de mon Père. Le bonheur est dans l'indépendance, le bonheur est dans l'autonomie. Puis qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, rien de nouveau sous le soleil, il va dépenser son argent de façon désordonné, dans des plaisirs dépassés, déplacés, eh bien on voit bien que, au fond, il essaye de trouver une source de bonheur, mais qu'il n'arrive pas à combler, au fond, ce que son père pouvait lui donner. Et chacun de nous, on se rend compte que lorsqu'on ne donne pas à Dieu la première place, celle qu'il doit occuper, eh bien la nature ayant horreur du vide, on essaye de combler de différentes manières, et chacun a son mode de compensation. Là, on voit que c'est dans le désordre qu'il a voulu compenser, mais le carême, c'est pour se reprendre, justement, et voir cette place que j'aurais pu donner à Dieu, par quoi je l'ai compensée. Qu'est-ce qui a voulu occuper cette place que Dieu seul veut occuper? Parce que l'idolâtrie, c'est bien ça, donner à quelque chose ou à quelqu'un la place que Dieu seul peut occuper. Alors, il y a les grandes j'allais dire, les grands péchés habituels, hein, le péché de l'esprit, l'orgueil, le péché lié au plaisir désordonné, le péché lié aux richesses, hein, ces trois tentations que le Seigneur a affrontées au début du carême, lorsque nous avons lu, au premier dimanche, ces tentations au désert, ce sont des péchés de toujours, ce sont des orgueils qui nous emmènent loin de Dieu, mais toujours avec la prétention de nous donner un bonheur. Et puis, il dépense son argent, et puis il se trouve sans rien. Et là, lorsqu'il est obligé de manger de la nourriture des cochons, il se rappelle que les ouvriers qui travaillent dans la maison de son père, eux, ne manquent de rien. Ce retour vers le Père, ce retour vers Dieu, qui ne s'enracine pas non pas dans la bonté de Dieu, où il fait mémoire de l'amour qu'il a pu recevoir de son Père, non, c'est simplement des questions matérielles, il n'a plus rien à manger, eh bien il faut bien se nourrir pour ne pas mourir de faim. Et cela nous donne aussi un regard particulier pour tous ceux qui reviennent vers le Seigneur, et on le souhaite, cette mission ait été un lieu de retour vers le Seigneur, et pour des motifs très différents. Mais comme il est bon, et on le voit bien dans la parabole du Père miséricordieux, d'avoir cette attitude du Père, de ne pas mettre peut-être le niveau d'exigence et de pureté des motifs pour revenir vers Dieu trop haut, de peur de décourager. Là, c'est très clair, il voulait simplement nourrir son corps, et il avait peur de mourir de faim. Et donc, le Père, il revient vers le Père. C'est assez intéressant. Il se prépare un discours intérieur. C'est comme, peut-être vous l'avez expérimenté l'un ou l'autre, quand on doit faire la déclaration d'amour. Hein, pour ceux qui sont mariés, ben, à un moment donné, vous vous lancez à l'eau, et puis vous vous dites, ben là, je vais dire ceci, je vais dire cela. Ou alors, quand vous devez aller voir votre patron pour lui demander une augmentation, eh bien voilà, on va dire ceci, on va dire cela, on se fait tout un discours intérieur, on se prépare en vue de la rencontre. Et au fond, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et lorsqu'il arrive devant le Père, qu'est-ce qu'il dit? C'est intéressant ça. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Et là, le Père le coupe. Il ne le laisse pas dire, traite-moi comme l'un de tes ouvriers, l'un de tes journaliers. Parce que cette qualité de fils, il ne la perd pas. Cette qualité de fils reste. Il n'est pas un journalier, il n'est pas un subalterne, non. Il a vraiment cette plénitude de la dignité de fils, d'enfant de Dieu. Et c'est bien cela que nous rappelle la réconciliation. Même si nous sommes allés loin dans le désordre, et qui d'entre nous n'a pas une part de désordre dans sa vie, eh bien cette qualité de fils de Dieu, cette profonde marque de la dignité, c'est comme un sceau sur notre cœur, reste quoi que nous fassions. Et comme pour prouver cette qualité, eh bien, on voit les différents signes de cette dignité d'enfant à travers non seulement les chaussures, à travers le vêtement, à travers la bague au doigt qui était le sceau au fond qui pouvait signer un certain nombre d'actes. Hein, il est vraiment le fils de la maison. Et on festoie. Et la deuxième figure que l'on connaît bien et que l'on juge à tort, à mon avis, trop vite, c'est le fils aîné qui se met en colère, et comprenons sa colère. Premièrement, il n'a pas été invité, hein, il n'a pas été invité à la fête, et il entend des bruits de fête, de la musique, il envoie un ouvrier demander ce que c'est, il dit, voilà ton fils, ton frère qui est revenu, et ton père qui a fait tuer le veau gras, il fait la fête. Et il revient énervé. Et ne jugeons pas trop rapidement cet énervement, parce que parfois ça peut être le nôtre. Combien dans les familles, justement, des enfants qui ont peut-être fait n'importe quoi, ou des frères et sœurs qui sont allés par des chemins de traverse, ou ont rendu la vie familiale très compliquée, et lorsque vient le temps de la réconciliation, ou le temps parfois de l'ouverture du testament, on dit, ben quoi, on lui a donné tout ça alors qu'il a pourri la vie de la famille. On voit bien que notre manière de juger, eh bien, n'est pas celle de Dieu. Quel est le péché du fils aîné? Parce qu'il a un péché. Qu'il s'énerve contre le fils prodigue et qu'il s'énerve parce qu'il n'a pas été convié, on peut à la limite le comprendre. Mais quel est son péché profondément? Son péché, c'est qu'il ne s'est pas considéré comme fils. Je ne t'ai jamais rien demandé. Et c'est là le problème. C'est qu'il n'a jamais rien demandé. Et il dit, et ton fils que voilà, hein, mettant comme, c'est pas mon frère, c'est ton fils que voilà, hein, eh bien, tu fais tuer le veau gras, alors que moi, eh bien, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais est-ce qu'il l'a demandé? Non. Il n'est pas vraiment, lui non plus, dans cette démarche de fils. Parce que qu'est-ce qui caractérise le fils par rapport au père? C'est précisément ça, c'est cette attitude d'humilité, de demande, de voir dans le père la source du bien. Et lui, non. Il a voulu être à son tour autonome, indépendant. Ah oui, il n'a pas été dans le désordre, il a été un bon petit soldat qui a bien accompli tous les ordres, il a fait tout ce que lui demandait son père, mais dans son cœur, il était loin d'être vraiment fils et d'avoir cette attitude d'humilité, de demander un chevreau ou peut-être le veau gras pour festoyer avec ses amis. Combien, frères et sœurs, nous aussi, nous sommes parfois dans cette attitude. Nous prions pour les autres. Ah oui, ça, nous prions pour les autres. Mais je l'ai entendu souvent. Ah non, pour moi, je ne demande rien. Non, non, moi, j'ai besoin de rien. Non, ça, c'est de l'orgueil. Tous, nous avons besoin, ne serait-ce que pour nous-mêmes, d'accomplir les commandements du Seigneur, d'accomplir sa volonté. Eh bien, nous demandons la grâce pour nous-mêmes aussi. Combien de personnes, et j'en suis témoin, ont la difficulté qu'on les fête, par exemple au moment des anniversaires, et ne veulent qu'on n'organise rien pour eux, au contraire, non, je ne veux pas qu'on être au centre de la fête, privant les autres d'une petite célébration familiale qui donnerait à chacun l'opportunité de montrer son affection. Eh bien, on voit bien combien cette attitude, hein, sous prétexte d'une certaine pudeur ou pas vouloir déranger, peut parfois être un signe de manque d'humilité, privant les autres de pouvoir donner quelque chose en retour de ce qu'ils ont pu recevoir. Bien, l'attitude du fils aîné, c'est un peu ça. Il n'a pas eu cette attitude de fils, il n'a pas voulu rentrer dans la dépendance d'avec le père, lui aussi, d'une certaine manière, même si extérieurement tout va bien pour lui, mais intérieurement, il est loin de son père. Alors, nous pouvons, frères et sœurs, voir les deux grandes attitudes. Évidemment, quand Jésus parle, on ne peut pas ne pas penser aux pharisiens et puis aux publicains, mais aussi à l'intérieur même de nous qui sommes pratiquants, qui sommes dans l'Église. Eh bien, nous avons ces deux attitudes, nous jugeons la spiritualité de l'autre, nous jugeons la manière de prier de l'autre, nous sommes souvent bien durs par rapport à ceux qui reviennent et qui n'ont pas forcément une pureté d'intention. Demandons, frères et sœurs, en ce dimanche, demandons ces grâces de conversion, demandons ces grâces d'accueil, de nous reconnaître dépendants de Dieu, non pas simplement intellectuellement, mais dépendant de Dieu au quotidien. Dieu nous maintient dans l'existence. Et s'il arrêtait de penser à nous, ne serait-ce qu'un instant, non seulement on mourrait, mais on tomberait dans le néant. Parce que même les âmes qui ont quitté cette terre, Dieu les aime et les maintient dans l'existence par son amour. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, le carême, c'est le moment de redécouvrir ce lien crucial avec Dieu. Non pas un lien pour nous sentir bien, ou un lien qui nous donne une sécurité matérielle, ou une assurance vie. Au contraire, les disciples du Christ sont souvent plus éprouvés que les autres. On le voit à travers l'Église persécutée de par le monde. Mais au contraire, un lien qui fait que je n'ai pas peur d'être en dépendance et que la confiance va être le signe de l'amour que je porte au Seigneur. Demandons, frères et sœurs, parce que nous sommes souvent aussi éprouvés dans la confiance envers Dieu, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il écoute nos prières, parce qu'on vit des épreuves ou notre famille vit des épreuves auxquelles on ne s'était pas attendu, eh bien redemandons cette grâce de la confiance et redisons au Père, eh bien je suis ton enfant, accueille-moi, parce que c'est de toi que vient tout bien. Amen.